à tous, mercredi 6 juillet, bienvenue à Aime l'été. Ce midi, on vous invite à croquer à pleines dents dans nos sujets à la fois vivants, variés, colorés, mais aussi dans nos sujets un peu plus sérieux. Alors, je vous rappelle que nous sommes avec vous tous les midis, du lundi au vendredi, pour profiter pleinement de l'été. Une belle habitude à prendre sur Canal M, Vue et Voix. Émission aussi disponible sur la télé numérique, sur Vidéotron à la position 577 et sur Bell à la position 13. Merci de partager notre table. Voici votre émission estivale Aime l'été. Et aujourd'hui, notre brigade vous invite à découvrir davantage notre Musée des Beaux-Arts de Montréal, mais aussi la nouvelle vision plus inclusive du musée. L'éco-pâturage, ça vous dit quelque chose? Les moutons à la rescousse de nos pelouses. Aussi, sujet d'actualité, la dignité pour les aînés. Et enfin, abracadabra, la magie, dis-je bien, est au rendez-vous avec Fredo le magicien. Bienvenue à Aime l'été.
Do you wanna see a magic trick? Keep your eyes on me, babe, and I'll blow your mind. Well, they told me to be young and slick. And the back of a black car comes with time. Yeah, you best go stand in line. Yep. When you're past your expiration date, and they look at you like you're some kind of broken toy. Gotta pay the price to catch a break. Before the shine fades away on this Polaroid. Cause I still got fight in me, boy. Yep. Ooh, I'll give you what you want. Ooh. Disappear. See, I built this castle brick by brick, but I'd burn it to the ground if it'd make you cheer. You'll have a fresh face, cowboy, next year. Ooh, I'll give you what you want. I'll give you what you need. Ooh, and if it breaks my
Oh,
The Night Game est un groupe de rock américain de Boston formé en 2016, fondé par le musicien Martin Johnson. La pièce Magic Trick, tirée de l'album Dog Years, sortie en mai 2020. Eh bien, petit tour de magie en ce qui nous concerne. On s'en va rejoindre par la voix des airs Fredo le magicien. Bonjour!
Wow, bonjour! Vous avez de la suite dans les idées.
Mais tout à fait! Il faut que ça soit concept quand même.
J'adore.
Fredo le magicien, de votre vrai nom, Frédéric Desmarais, parce que je ne vais pas vous appeler Fredo tout le long de l'entrevue. Vous êtes un magicien dans l'âme depuis que vous êtes très jeune.
Oui.
Un humoriste également. Musicien, en fait, pas un musicien, mais un magicien coloré, pas nécessairement par le costume, mais par votre personnalité, en tout cas.
Oui, ben en fait, je travaille mon public et le jeune public. Donc, de 6 ans à 12 ans, c'est mon monde. Par contre, il y a des adultes qui sont là, faut jamais oublier ça, souvent dans les salles de spectacle, dans les festivals, les choses comme ça. Et je veux que les adultes embarquent aussi. Alors, je rends ça coloré, amusant. Vous avez dit humoriste tout à l'heure. Je me considère pas comme un humoriste parce que c'est tout à fait un autre travail, mais j'adore ajouter des blagues, de l'humour.
Vous en faites pas mal.
Oui, beaucoup.
Vous êtes très habile.
Alors, j'aime beaucoup ça.
Donc, public de tous âges, vous en faites des spectacles de magie depuis 35 ans, évidemment. Je sais que ça vous rajeunit pas, mais qu'importe. Vous êtes jeune dans la tête, ça c'est sûr. Vous vous êtes fait connaître à la télé. On pense à l'émission Bulldog Bazar, qui a succédé à l'émission Vasimolo. Alors, ça va peut-être sonner des petites cloches pour certains. Maintenant, des milliers de spectacles, évidemment. Des capsules de magie sur tous les écrans, en cinéplex, des cinémas Cinéplex aussi.
Oui, ça a été une super aventure. Grâce à ça, j'ai pu me faire voir de Vancouver jusqu'à les Maritimes, Halifax, tout ça. Dans tous les cinémas, j'étais là dans les Cinéplex. J'étais en capsule d'une minute trente avant tous les films. Oui, et c'était extraordinaire parce que j'étais à un moment donné en croisière, en plein milieu des Caraïbes, et il y a une dame de Winnipeg qui me tape sur l'épaule, puis elle fait « C'est là que je vous ai vu en anglais », elle me dit ça. Là, elle fait « J'ai reconnu votre voix ». J'ai reconnu votre dynamisme avec vos enfants. Elle dit, je savais qui vous étiez, mais elle dit, je savais pas comme allumé encore. Et là, tout à coup, elle a comme allumé complètement. Donc, ça m'a fait voyager aussi.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on tournait les capsules à Montréal en anglais et en français. Par contre, il y a des gens qui m'ont vu et qui m'ont fait venir à Vancouver, à Calgary, en français, en anglais, grâce à ça. Donc oui, ça a été une aventure, puis je m'en fais encore beaucoup parler, d'ailleurs.
Ah, ben c'est incroyable quand même. Hein? Alors, vous avez écrit des livres aussi sur la magie. Bref, vous êtes un autodidacte, là, faut le dire. Vous avez appris dans les livres, les boutiques spécialisées, en observant les autres magiciens aussi.
Exactement, il y a des congrès de magie aussi. J'ai eu la chance, tout jeune, moi j'allais dans une boutique de magie dans le Vieux-Terrebonne. En fait, c'était une boutique de ballons, de farces et attrapes, et le propriétaire était un magicien. Alors, tous les jours, c'était sur mon chemin de retour de l'école, et sans blague, là, à tous les jours, j'allais voir s'il y avait des nouveaux tours, s'il y avait quelque chose à me montrer. Je devenais probablement fatigué. Mais j'aimais ça. C'était ma passion.
Ouais.
Et là, un jour, lui, il s'était inscrit à un congrès de magie qu'il y avait à Montréal et ne pouvait plus y aller. Je devais avoir 14 ans, pas de voiture. Il m'a dit, tiens, je te donne mon billet, vas-y. Et là, j'ai découvert 300 magiciens qui parlaient de magie en même temps.
Oh là là!
Et c'est devenu comme, waouh, ça se peut, ça? Et là, un peu plus tard, je suis allé dans un congrès où on était 1250 à Las Vegas. Et là, tous les magiciens connus de Vegas, du monde, de l'Internet, tout le monde était là. C'était, je veux dire, capoté. Parce que là, je rencontrais mes idoles, je rencontrais tous ceux que j'admirais, je pouvais parler avec eux autres. C'était incroyable. Imaginez 1250 personnes qui parlent de votre passion
même
temps. C'est incroyable.
Et puis, êtes-vous nostalgique, justement, de votre enfance, de cette époque où vous-même, vous étiez un peu mystifié par la magie?
Ben, savez-vous quoi? Je le suis encore.
C'est vrai?
Parce que, oui, quand je vais dans les congrès de magie, ce que j'aime, c'est trouver les gars ou les filles, parce qu'il y a de plus en plus de filles, et ça, c'est parfait.
Oui, on va en parler, d'ailleurs. Ouais.
Absolument. Et là... De trouver les magiciens qui ont des tours à me montrer. Des fois, là, on reste dans les congrès parce qu'il y en a un très beau à Québec, entre autres. On se retrouve, il est un petit peu plus petit, là, mettons 350, 400, quoique là, ils vont recevoir la compétition olympique des magiciens cet été, très bientôt, le mois de
Oui,
juillet.
c'est vrai.
Ils vont être 3 000 magiciens, ça va être fou. Mais tout ça pour dire que même dans le petit moment où on est 300, là, j'ai trouvé celui ou celle qui va réussir à m'en montrer que je connais pas. Et là, je repars à ma chambre d'hôtel, j'ai le sourire pendu jusqu'aux oreilles, je me parle toute seule parce que je suis en train de me demander qu'est-ce que je viens de voir là. Puis là, je croise des gens ordinaires, dans le sens que pas des magiciens. Ils doivent me trouver complètement fou parce que je vous le dis, je me parle tout seul. Des fois même à haute voix, en train de me dire qu'est-ce que je viens de voir là. Puis je m'en vais me coucher, j'ai le grand sourire pendu jusqu'aux oreilles et je fais, ben voilà, c'est pour ça que j'aime encore ça.
Ah, c'est incroyable quand même de vous entendre là-dessus. Et puis, vous enseignez en même temps des numéros de magie, je pense. Vous donnez des ateliers.
Oui, j'ai la chance de me promener dans les écoles. Partout au Québec, même pendant la pandémie, je me pointais dans les classes en Ontario, en Saskatchewan, via Zoom. Donc, pas besoin de me déplacer, mais j'entrais dans leurs classes et on fait une heure, ça dépend. Des fois, je fais des ateliers dans les écoles en parascolaire, donc c'est 8 semaines. Notre but ultime, c'est de présenter un petit spectacle devant les parents. Mais sinon, c'est aussi de développer la magie parce que moi, quand j'étais plus jeune, j'avais pas nécessairement de la misère à entrer en contact avec les gens, mais ça me prenait un outil. Et avec la magie, je pense que c'est un outil extraordinaire pour entrer en contact avec les gens. Il y a des amis de mes garçons, j'ai un garçon de 12 ans. Oui, j'ai un ami de 12 ans qui aime la magie.
Vous avez un fils.
Mon fils est de 12 ans et son ami aime la magie. Et
ben,
c'est un gars un peu gêné. Et il a commencé à en faire, à apprendre. Et là, ses parents, ils me disent tout le temps, c'est incroyable, il rentre en contact avec les gens, il va voir les gens. Quand il y a un party, il va dans une petite gang, puis là, il va leur montrer des tours qu'il a appris. Puis là, ben, je dis, c'est ça la magie. Parce qu'à un moment donné, ben, beau le faire à ta mère, à ton père, au miroir, voyez, c'est assez, là. Il faut aller le faire aux gens, il faut aller le faire aux autres.
Et voilà.
Puis que les autres te fassent, waouh, c'est bien hot. Mais c'est valorisant, c'est incroyable.
Ah, c'est intéressant. Alors donc, vous formez un peu, en quelque sorte, la relève. Et comme vous le disiez, il y a de plus en plus de femmes aussi qui s'intéressent à la magie. Alors ça, c'est intéressant parce que c'était comme un domaine un peu réservé aux hommes, traditionnellement.
Ben, mais enfin. En fait, il y a toujours eu un peu des femmes, des filles qui en faisaient, mais on dirait qu'on les voyait moins, on dirait qu'il y avait moins de place. Puis là...
Où elles étaient les assistantes des magiciens.
Oui, ben, souvent, oui, effectivement. mais là... si vous écoutez une émission de télévision, vous pouvez trouver ça même sur Internet, une émission qui s'appelle Fool Us, qui est animée par Penn and Teller, deux magiciens de Las Vegas, connus aux États-Unis, même ici au Canada, puis partout dans le monde. Et là, le but du jeu dans cette émission-là, c'est de les mystifier, parce qu'ils en connaissent beaucoup de choses sur la magie. Alors là, l'idée, c'est d'arriver en avant d'eux autres, faire un tour de magie et leur montrer quelque chose que on pense qu'ils ne découvriront pas le secret.
Ah,
et y a beaucoup de filles qui font des choses
intéressantes.
Ah,
okay.
Alors, allez voir ça si vous trouvez ça là, sur Internet, Fool Us. C'est vraiment cool. Vous allez découvrir plein de magiciens et magiciennes là-dedans. Puis c'est vraiment le fun. D'ailleurs, il y en a une qui s'en vient à Québec, justement.
Oui, c'est durant le Festival de magie de Québec, puis il y a un championnat aussi. Hein.
Oui, exactement ça. Puis il y en a une qui va participer au championnat qui fait ce qu'on appelle du quick change, des changements de costume un peu comme je voulais dire, puis comment il s'appelle, donc celui le transformiste comme ça. Ah, j'oublie son nom, parce que je veux le dire. Mais
Il y en a eu une dernièrement, enfin que j'ai vu moi au talent à revendre, remarquez.
Oui,
là, bon.
Ben, c'est elle. C'est une Française. Elle travaille à Vegas en ce moment. Puis elle s'en vient à Québec.
Ah, alors, d'accord. Au spécial.
Il va y en avoir d'autres aussi, des magiciennes là aussi qui vont être là. Allez voir ça, festivaldemagie.ca.
Parfait. Là, je veux parler de ce qui s'en vient pour vous parce que, bon, d'abord, on n'a pas parlé, évidemment, de combien de temps vous mettiez à bâtir vos spectacles. C'est quand même long, hein? Ça prend plusieurs années, j'imagine, avant de mettre ça au point.
En fait, je travaille un nouveau spectacle, d'ailleurs, qui va sortir à l'automne. Et ça fait 2 ans et demi que je travaille dessus parce que je veux être différent, je veux être créatif. Alors, 2 ans et demi à peu près pour celui-là.
Bon, écoutez, puis là, ça vous prend le matériel. Le matériel, c'est quand même quelque chose d'assez précieux. Hein. D'ailleurs, j'avais lu que vous vous étiez déjà fait voler votre matériel en 2017. C'était pas drôle.
Ouais,
et puis, effectivement, ça sert pas grand-chose pour les autres, mais pour vous, c'est essentiel. Et puis, ça, c'est quand même pas facile à trouver non plus. Et puis, alors, c'est tout un...
C'était quelque chose d'exclusif, entre autres. Il y avait un des accessoires qui était exclusif. Il y en avait que quelques-uns sur la planète. On me l'a volé.
Et là là.
La personne qui l'a construit a été mise au courant, pas par moi, par quelqu'un d'autre. Il m'a écrit Puis il m'en a refait un avec des nouvelles choses dedans, avec pour le numéro. Puis j'ai presque pas payé pour l'avoir parce qu'il me disait, hey, regarde, j'ai envie de t'aider. Je trouvais ça extraordinaire.
Ah, merveilleux. En tout cas, fort heureusement, je suis bien contente de savoir que ça s'est bien fini, cette histoire-là.
Oui,
chose
absolument.
Certaine. Alors donc, plein de projets qui s'en viennent. Bon, est-ce que vous allez participer aux événements à venir là, du côté de Québec ou vous avez vos spectacles qui s'en viennent?
Je serai en voyage à ce moment-là.
Ah, d'accord.
C'était une grande tristesse, mais question famille, c'était important pour nous aussi, alors on part en voyage. Mais je vais être comme le 9, là, ce week-end, à Clermont, dans le coin de la Malbaie. Mm. Je vais être à Joliette le 13 à 19h. Suivez-moi sur Facebook, Trudeau le magicien. Puis je parle beaucoup sur Facebook, comme dans la vie. comme vous pouvez m'entendre, je parle beaucoup partout. Donc Facebook aussi, c'est comme juste un autre moyen pour dire ce que j'ai à faire, ce que j'ai à dire. Alors suivez-moi là, Jean de Joliette. Après ça, je serai au Montgolfière de Gatineau au début du mois de septembre. Je vais être au Festival de Saint-Tite en septembre. Je serai à Longueuil. Je me prenne beaucoup, je suis chanceux. Okay. J'ai passé à travers la pandémie d'une belle façon malgré tout. Puis là, ben, toujours vivant, toujours présent.
Bon, ben parfait. Et puis vous avez aussi, vous allez être dans une télésérie à venir, je pense, avec Ian England comme réalisateur.
Mais en fait, ça, c'était pour les bracelets rouges. J'ai fait une petite apparition là-dedans, mais il y a aussi quelque chose de télé qui se travaille en ce moment.
OK.
Alors, il y a plein de choses. Merci d'en parler, c'est gentil.
Bon, ben oui, il y a plein de choses. Oui, il va y avoir effectivement des choses à suivre. Bon, merci, Frédéric, voyons, j'oublie votre nom.
Desmarais,
c'est ça.
Desmarais, voilà.
Oui, exactement. Alors, Fredo le magicien, j'aurais pu dire ça comme ça, mais bon.
Ouais.
Alors, écoutez, on ira vous voir et puis on vous suit sur Facebook et partout.
Absolument.
D'accord.
Merci Chantal.
Merci infiniment. Bon été.
Salut.
Amusez-vous.
Vraiment. Bye bye. Salut.
As-tu sortira Biquette Biquette? As-tu sortira de ce chou-là? As-tu sortira Biquette Biquette? As-tu sortira de ce chou-là?
On envoie chercher le chien.
On envoie chercher le chien.
Afin de mordre Biquette.
Afin de mordre Biquette.
Le chien ne veut pas
mordre Biquette.
Biquette ne veut pas
sortir du chou.
As-tu sortira Biquette Biquette? As-tu sortira de ce chou-là? As-tu sortira Biquette Biquette? As-tu sortira de ce chou-là?
On envoie chercher le loup.
On envoie chercher le loup.
Afin de manger le chien.
Afin de manger le chien.
Le loup ne veut pas
manger le chien.
Le chien ne veut pas
mordre Biquette.
Biquette ne veut pas
sortir du chou.
As-tu sortira Biquette Biquette? As-tu sortira de ce chou-là? As-tu sortira Biquette Biquette? As-tu sortira de ce chou-là?
On envoie chercher le bâton.
On envoie chercher le bâton.
Afin d'assommer le loup.
Afin d'assommer le loup.
Le bâton ne veut pas
assommer le loup.
Le loup ne veut pas
manger le chien.
Le chien ne veut pas
mordre Biquette.
Biquette ne veut pas
sortir du chou.
As-tu sortira Biquette Biquette? As-tu sortira de ce chou-là? As-tu sortira Biquette Biquette? As-tu sortira de ce chou-là?
Ok.
On envoie chercher le feu.
On envoie chercher le feu.
Eh oui, As-tu sortira Biquette, c'était les titounis des personnages de cette chaîne française de vidéos pour enfants, cette comptine. Et oui, vous savez que des comptines comme ça, ben, ça stimule tout en chantant la mémoire des enfants. Alors, cette comptine de la ferme, un peu redondante, mais idéale pour animer les après-midi de jeu de vos enfants. Bref, où peut-on voir Olive, Gaspard, Guylaine, Thérèse, Léo et Kit Kat, la seule brebis noire du troupeau qui broute la pelouse dans le paysage urbain montréalais? Eh bien, à vous de nous le dire, Marie-Ève Julien-Denis, bonjour. Ah, Annie Cloutier, pardon.
Ah, excusez-moi.
Ben non, parce que je pensais que c'était Marie-Ève qui est la fondatrice.
Non,
mais
Annie.
D'accord, Annie. Bon, parfait, Annie, je m'excuse. Et puis, justement, parlant de ce troupeau, il y en a de tous les noms. On peut les voir sur votre site Internet, c'est quand même très amusant. On peut voir les disparus aussi, les moutons qui ont quand même habité les parcs montréalais. Et puis, il y a même un mouton qui porte le nom de l'anthropologue bien connu, Serge Bouchard. Cet agneau né le jour même de la mort du célèbre anthropologue. Hein. Alors, voilà. Alors, et oui, où sont-ils ces moutons? En fait, on parle d'éco-pâturage ici. Qu'est-ce que c'est? Racontez-nous.
Ben, l'éco-pâturage, pâturage, c'est une façon de gérer les espaces verts avec des ruminants. Ça peut être des chèvres, ça peut être des ânes, ça peut être des vaches. Mais nous autres, on a choisi d'utiliser des moutons parce que c'est plus... d'abord, c'est doux, c'est docile, c'est facile. Des fois, il va avoir des petites têtes dures, mais c'est facile à gérer avec le poulet aussi. Donc, ça fait une bonne job. Ça se nourrit de pissenlits, de plantains, de trèfles, de toutes sortes de graminées, tout en fertilisant le sol, parce que c'est ça aussi le but de la chose.
Exact.
Et apporter un sourire, en plus de l'éco-pâturage, on a aussi une fonction, une mission d'éducation, puis d'apporter un sourire sur le visage des gens. Je vois rarement des gens partir de Biquette avec un air fâché. Là, je dirais que en général, s'il y en a qui arrivent avec un air fâché, le sourire s'est inversé en quittant les moutons.
C'est ça, parce que là, il y a les moutons que l'on peut voir dans les parcs, mais aussi vous avez votre propre fermette. C'est ça, la ferme de Biquette. Dans les Laurentides.
Il y a une ferme de Biquette dans les Laurentides, mais c'est pas un lieu qu'on visite nécessairement. Là, c'est vraiment les quartiers d'hiver des moutons. Mm-hmm. Puis le Marie-Ève reste dans les Laurentides avec parce qu'on a un troupeau de maintenant, je pense qu'on est rendu à 50 moutons. Donc il y a quelques moutons qui restent à la campagne durant l'été, pendant que les autres viennent en camp de vacances à Montréal.
C'est ça, c'est un peu ça finalement pour les moutons. Oui, exactement. L'éco-pâturage, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, du moins ça se faisait beaucoup en Europe.
Je pense qu'il y a au moins une douzaine de villes en France qui font de l'éco-pâturage. C'est assez... C'est pas aussi spécial qu'ici. Là. Nous autres, on est à peu près des extraterrestres là, dans le paysage canadien. Il y a peut-être une initiative avec des chèvres, si je me souviens bien, c'est soit Calgary ou Edmonton. Je pense que c'est plus Calgary dans un grand parc, là, mais c'est plus pour manger des broutailles, donc ils ont choisi des chèvres, parce que les chèvres ne mangent pas la même chose que les moutons. Mais au Québec ou même dans l'Est du Canada, à notre connaissance, on est les seuls là, à avoir des moutons. Puis en plus, c'est des moutons qui sont libres, en fait, en liberté surveillée, parce qu'ils sont pas en enclos.
Non, c'est ça, ils sont vraiment en liberté.
Ça ajoute à l'aspect sympathique, là. Les visiteurs sont complètement émerveillés de voir des moutons lousses dans le parc. Là.
C'est ça. En fait, Marie-Ève, qui est l'instigatrice du projet, je pense qu'elle avait entendu le maire de l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie, François Croteau, parler de son désir d'accueillir comme ça des chèvres à Montréal dans un documentaire qui portait sur les habitudes alimentaires et l'agriculture. Alors là, c'est à la suite de ça qu'elle a conçu ce projet. Et puis, effectivement, elle s'est inspirée de ce qui se faisait ailleurs. Alors, c'est vraiment intéressant et on le fait, bien sûr, à notre façon. Et il y a aussi des fonctions. Là, on parle, évidemment, pour la pelouse et tout. Il y a des fonctions bien précises, mais chose certaine aussi, on peut penser à ramasser des petites broussailles, vous savez, pour éviter les feux de forêt. Ça peut être aussi utilisé dans ce sens-là.
Oui, c'est plus les chèvres qui feraient ça, là. Dans l'Ouest canadien ou même aux États-Unis, aussi en Californie, ils utilisent beaucoup les chèvres pour manger les broussailles. Parce que les chèvres, on aime beaucoup ce qui est piquant, la matière ligneuse, ils sont vraiment capables de la digérer. Les moutons vont pas grimper dans les arbres comme on peut voir des chèvres. Là. Des fois, ça arrive, ils plient carrément l'arbre pour le grignoter. Les moutons font pas ça. Les moutons vont lever la tête puis attraper les quelques feuilles qui sont à leur portée, mais
d'accord.
Ils feront rien de plus. C'est beaucoup moins dommageable. Si vous avez... Mais ça dépend toujours de l'environnement. Là. Chaque animal doit être employé dans le bon contexte.
C'est ça.
Ici, nous autres, c'est vraiment le gazon qu'on veut qu'on mange. Ils vont manger aussi les quelques buissons, ils vont peut-être manger un peu de chardon, là, mais on les tient loin.
Mais c'est pas ça qui est. C'est ça, c'est pas ça leur fonction première.
Non, mais c'est ça. Ils vont manger ce qui est à leur portée au sol, puis c'est c'est parfait, c'est adapté à ce que c'est vraiment ce qu'on veut qu'ils fassent là. En dessous des arbres d'ailleurs, là, les tondeuses peuvent pas se rendre parce qu'il y a des racines, il y a des plantes ligneuses mais basses. Donc les limitons sont bien adaptés pour aller dans ces endroits-là.
C'est ça. Et puis vous faites ce qu'on appelle de la gestion différenciée, c'est-à-dire qu'il y a des sections qui peuvent aussi être broutées différemment selon l'usage de ces terrains-là.
Ben, en fait, la gestion différenciée, c'est plus dans un terme de gestion des parcs ou des lieux publics où il y a du gazon, entre autres. Ça se démarque de la vision de on rase tout égal partout,
c'est
comme
ça.
Un terrain de golf. C'est une vision qui est un peu dépassée. Là, on se rend compte que si on fait de la gestion différenciée, c'est-à-dire que s'il y a des lieux qui sont appropriés de ton de gazon, mettons un terrain de soccer, par exemple,
c'est ça.
Oui, c'est approprié là, mais il y a d'autres sections dans un parc qu'on n'a pas besoin d'avoir le gazon super court.
Exact. Puis,
où on a avantage à laisser pousser le gazon. D'abord, un gazon plus long, ça réduit les îlots de chaleur. Le gazon va mieux résister aux sécheresses s'il est plus long que si on le tond très, très court. Ça abrite de la biodiversité. Il y a des sections du parc ici maintenant qu'on voit des papillons, on voit des butineurs, des bourdons, toutes sortes d'abeilles.
C'est ça, des pollinisateurs, oui, c'est ça.
Là, mais sauvages. Donc, ça leur fait quelque chose à manger. Ça fait quelque chose à manger aux oiseaux aussi. Parce
c'est
que
ça. Donc, il ne faut pas tout raser pour autant. Ouais.
Non, c'est ça. C'est ça. La gestion différenciée tient compte de ces différentes sections du parc.
D'accord.
Selon les usages.
Mm-hmm.
Donc, s'il y a des sections où c'est approprié d'avoir du gazon long, on va le laisser long. Donc, on ne va pas tout étendre le même traitement partout égal. Donc, c'est parfait. Quand on a des moutons, on peut brouter certaines sections puis laisser la tondeuse tondre d'autres sections où c'est plus approprié d'avoir un gazon court.
Ouais. Enfin, il y a plein de choses. Il y aurait plein de choses à dire. Écoutez, j'avais plein de matière. Oui, j'aurais pu jaser pendant longtemps. En tout cas, votre troupeau de 16 moutons de biquettes est présente au parc Maisonneuve cet été.
Mm-hmm.
Alors,
à Rivière des Prairies aussi.
Parfait.
Il y a jusqu'au Rivière des Prairies, c'est moins long, là, c'est jusqu'au 24 juillet, mais
d'accord.
On a le parc Chartrand, pas Chartrand, mais le nom m'échappe, du Chevalier Cuivré et de du parc avoisinant.
D'accord, parfait. Alors, ça réduit, évidemment, c'est bon contre la pollution de l'air. On en reparlera de toute façon. Merci d'avoir été des nôtres. Et vous avez toute une armée de bénévoles qui s'occupent très bien de vos moutons. Au revoir.
Merci,
et à la prochaine.
À bientôt. Au revoir.
Vous écoutez Aime l'été.
Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror. What do you see? Do you see it clearer? Or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all. And you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Some people got the real problems. Some people out of love. Some people think I can solve them. Don't
that's my opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry. For making you cry. Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Oh, some people got the real problem. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. I do what I can. I'm just a man. I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
Rag and Bone Man, de son vrai nom Rory Charles Graham, qui est un chanteur britannique de soul, de blues et de hip-hop, et il est né le 29 janvier 1985. Il s'est fait connaître en 2016 avec cette chanson Human, qui a connu un succès international. Eh bien, c'est de ce côté humain et inclusif dont nous allons parler avec la nouvelle directrice par intérim du Musée des Beaux-Arts de Montréal, Angela Cassie, en même temps dirigeante principale de la stratégie et de l'inclusion au musée. Bonjour!
Oui, bonjour.
D'abord, félicitations pour cette nomination.
Ben merci. Je voulais juste clarifier, c'est le Musée des Beaux-Arts du Canada, ici à Ottawa.
Ah, je m'excuse. Pourquoi j'ai dit Musée des Beaux-Arts de Montréal? Je m'excuse. Du Canada.
Excellent organisme. Mais...
Oui, non, exactement. Donc, félicitations, effectivement, pour cette nomination. Et vous avez travaillé, d'abord, si je regarde ce que vous faisiez avant, quand même, vous étiez quand même parmi vos fonctions précédentes, vice-président principal, programme et affaires publiques au Musée canadien pour les droits de la personne à Winnipeg. Vous y avez occupé différentes fonctions durant 10 ans. Vous avez amorcé aussi votre carrière au ministère du patrimoine. Alors, votre CV est très bien garni. Comment voyez-vous ce rôle aujourd'hui, là? Parce que là, vous avez travaillé sur ce plan stratégique pour l'inclusion.
Oui, bien, pour moi, je suis vraiment honorée de vraiment pouvoir travailler en collaboration avec mes collègues ici dans cette nouvelle fonction. Nous avons travaillé avec des employés, notre conseil d'administration à tous les niveaux pour envisager ce plan stratégique. Alors, pour être donné un mandat, même par intérim, qui est vraiment une continuation, me donne de la laine. je pense que nous allons continuer d'apprendre et évoluer ensemble comme musée.
C'est ça. Donc, transformer ensemble. Et je pense que vous n'êtes pas les seuls quand même aussi à penser, évidemment, à une réalité différente d'aujourd'hui. Ça s'inscrit vraiment dans la tendance actuelle. Comment le musée se positionne par rapport à d'autres?
Oui, bien, pour nous, c'est vraiment quand on regarde à notre programmation, on veut que ça soit plus audacieuse, expérimentale, et non seulement en personne, mais aussi en ligne. Alors, ça, c'est un élément qui est absolument en développement. Mais on veut aussi pas juste avoir une lentille sur notre programmation, mais aussi aux aspects à l'interne. Alors, comment est-ce qu'on est en train d'outiller nos équipes de bâtir de la capacité et vraiment analyser notre démarche et penser et avoir le courage de changer d'orientation. Alors, c'est vraiment ça qu'on est en train de faire en tant qu'adaptation.
C'est ça. Parce que le musée, bon, se veut représentatif de la population canadienne, québécoise aussi, de sa diversité, en commençant par les Autochtones et communautés des Premières Nations. Vous aviez quand même une ouverture déjà, tout de même.
Oui, absolument. Nous avons une ouverture déjà, mais c'est pour nous assurer qu'on donne cette voix à la diversité et que ça informe tous les éléments de nos opérations. Alors, comme j'ai dit, pas juste dans la programmation, mais dans nos équipes, dans nos processus. Alors, c'est vraiment de regarder à nos auditoires, mais aussi à le comment à l'interne.
C'est ça. Donc, qu'est-ce qui va concrètement changer au musée dans les prochaines années?
Oui, bien, on travaille justement sur une politique de très grande importance, et c'est comment on est en train d'acheter les œuvres. Alors, une de nos responsabilités principales, c'est vraiment de bâtir la collection nationale. Cette politique-là, on veut assurer qu'on identifie les barrières et pour nous assurer que dans 10 ans, dans 20 ans, nos publics vont dire oui, c'était en effet une collection qui est une réflexion de qui on était en 2022, 2023, mm-hmm. et que ces voix sont maintenant là pour l'avenir et les générations qui nous suivent. Alors ça, c'est un projet de très grande importance. Et nous sommes aussi en train de vraiment réfléchir, ça veut dire quoi de placer les façons d'être et les formes de savoir des Autochtones au cœur de nos actions. C'est quoi ces pratiques-là et ça veut dire quoi dans une institution comme la nôtre. Mais la durabilité et la résilience de nos opérations, c'est aussi extrêmement important. Alors, on pense de l'accessibilité de nos espaces, de l'impact environnemental. Alors, ça touche sur plusieurs priorités et on parle vraiment de ces espaces dans une manière globale.
C'est ça, donc. Et puis créer des expériences dynamiques vraiment qui changent à la fois le regard sur nous-mêmes et sur les autres, sur notre histoire et c'est ça. Donc, je pense que vraiment, il y a nous comme, évidemment, ici à Canal M, on est conscient aussi de l'importance d'être inclusif. Nous pensons chaque jour dans nos émissions, d'ailleurs, aux gens qui ont des limitations, également des gens ayant un problème de mobilité réduite. Enfin, ça peut être plein de choses. Mais cette réflexion-là, donc, elle s'est faite sur combien de temps exactement?
Mais je dirais que certainement, il y a des membres de nos équipes qui soulèvent ces enjeux pendant plusieurs années. Alors, je ne veux pas prétendre que c'est dans les derniers 18 mois qu'il y a un événement. Alors, il y a des petites démarches qui se faisaient, mais c'était vraiment sous le leadership de Sacha Souda que nous avons développé un plan global, stratégique pour vraiment nous assurer qu'on prend des pas concrets et institutionnel. Notre plan stratégique, on a partagé le printemps de l'année passée. Alors, ça fait un an qu'on travaille et ça nous permet d'encadrer ce travail un petit peu plus clairement et aussi mettre en place des mesures pour voir si on fait du progrès. C'est un plan stratégique de 5 ans.
Ouais.
Et nous allons continuer avec la suite de ce plan.
D'accord. Le musée des enfants, toujours bien actif?
Nous n'avons pas un musée pour enfants, et on reconnaît que très souvent, les familles avec de jeunes enfants ont parfois pas l'accueil voulu. Alors, on développe la programmation pour les familles, pour les engager et pour aussi offrir de la programmation. Nous avons une studio. Alors, les gens peuvent venir créer des œuvres d'art. Pour nous, c'est vraiment d'agrandir ces espaces-là et accueillir des familles davantage. Alors, du progrès qui est fait, mais on veut avancer davantage.
Oui, d'accord. Ben, je m'excuse parce que je vous parlais du musée des enfants. C'est moi qui ai fait erreur, là, parce qu'on parle de l'autre musée qui est présent.
Oui,
oui c'est ça. Pas très loin de chez vous.
Ouais, et
effectivement,
ouais.
Je m'excuse. Mais de toute façon, alors, ben, c'est aussi inclusif hein, pour ce qui est des enfants, bien entendu. Alors, du beau travail que vous faites, vraiment, c'est très intéressant. Une démarche aussi essentielle. Je pense que vraiment, il faut le faire. Et puis, je pense que tout le monde doit le faire. Et puis, particulièrement, les musées qui sont quand même à l'avant-garde des tendances, qui tâtent le pouls aussi de ce que sont nos sociétés.
Absolument. Puis, je crois vraiment que les arts visuels ont la capacité de vraiment ouvrir nos cœurs et nos esprits. On a la capacité de changer le regard sur nous-mêmes, mais aussi sur les autres et sur nos histoires respectives. Alors, et dans des espaces pleins d'inspiration. Alors, vraiment, c'est un beau projet et d'être capable d'avancer ce changement-là, utilisant l'art comme fil conducteur, c'est rempli d'inspiration.
Eh oui, parce que l'art, ça change le monde aussi. Hein?
Absolument.
Merci infiniment d'être venu nous parler de cette nouvelle vision que vous avez. Eh bien, et puis, ben, je vous souhaite un bon été. Et puis, il y a des expositions à ne pas manquer, évidemment, cet été.
Oui, absolument. Nous avons présentement une exposition incroyable de General Idea. Ça amène les perspectives de la communauté LGBTQ de S dans une manière que nous n'avons jamais présentée dans une manière aussi compréhensive, mais c'est inspirant. C'est la plus grande exposition de ce genre et ça ramène un groupe d'artistes qui sont plus connu à l'extérieur qu'ici au Canada. Alors, absolument, ça vaut la peine. On est tout près de Montréal.
Exact. Alors, près de Montréal. Ah oui. Et puis, vous avez un volet virtuel. Alors, évidemment, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, il y a quand même des choses aussi à aller voir sur votre site.
Absolument, absolument. Il y a General Idea, toutes des vidéos. On a beaucoup de contenu. Alors, c'est soit un avant-goût ou bien si vous n'êtes pas en mesure, certainement, on vous accueille aussi en ligne.
Extraordinaire. Merci bien encore une fois. Alors, le Musée des Beaux-Arts du Canada, cet été, c'est une belle destination.
Bien, merci beaucoup et à bientôt, Chantal.
À bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Ça fait 100 longs hivers que j'use le même corps. J'ai eu 100 ans hier, mais qu'est-ce qu'elle fait la mort? J'ai encore toute ma tête, elle est remplie de souvenirs, de gens que j'ai vu naître, puis que j'ai vu mourir. J'ai tellement porté de deuil que j'en ai les idées noires. Je suis là que je me prépare, je choisis mon cercueil, mais le docteur me répond. Visite après visite, j'ai une santé parfaite, il est là qui me félicite. J'ai vu la première guerre, le premier téléphone. Me voilà centenaire, mais bon, qu'est-ce que ça me donne? Les grands avions rugissent, il y a une rayure au ciel. C'est comme si l'éternel m'avait rayé sa liste. Ça fait 100 longs hivers que j'use le même corps. J'ai eu 100 ans hier, mais qu'est-ce qu'elle fait la mort? Qu'est-ce que j'ai pas fini, qu'il faudrait que je finisse? Perdre un dernier ami, enterrer mes petits-fils. J'ai eu 100 ans hier, ma place est plus ici. Elle est au cimetière, elle est au paradis. Si je méritais l'enfer, alors c'est réussi. Car je suis centenaire et je suis encore en vie. Moi je suis née aux chandelles, J'ai grandi au charabon. Bien sûr que je me rappelle du tout premier néon. J'ai connu la grande crise. J'allais avoir 30 ans. J'ai connu les églises avec du monde dedans. Moi, j'ai connu les chevaux et les planches à laver. Un fleuve tellement beau qu'on pouvait s'y baigner. Moi, j'ai connu le soleil avant qu'il soit dangereux. Faut-il que je sois vieille? Venez me chercher. J'ai eu 100 ans hier. C'est pas que j'ai pas prié, mais ça aurait tout l'air que Dieu m'a oublié. Alors j'ai des gardiennes, que des nouveaux visages, des amis de passage payés à la semaine. Elles parlent un langage qui ne sera jamais le mien. Ça me fait du chagrin d'avoir 5 fois leur âge et 1000 fois leur fatigue immobile à ma fenêtre, pendant qu'elle navigue tranquille sur Internet. C'est vrai que j'attends la mort, mais c'est pas que je sois morbide. C'est que j'ai 100 ans dans le corps et que je suis encore lucide. C'est que je suis avide, mais qu'il n'y a plus rien à mordre. C'est que mon passé déborde et que mon avenir est vide. On montre à la télé des fusées qui décollent. Est-ce qu'on va m'expliquer ce qui me retient au sol? Je suis d'une autre école, j'appartiens à l'histoire. J'ai eu mes années folles, j'ai eu mes heures. J'ai eu un bon mari et 4 beaux enfants, mais tout le monde est parti dormir au firmament, et il n'y a que moi qui veille, qui vis encore. Je tombe de sommeil. Qu'elle fait la mort.
Et voilà, c'était Linda Lemay qui chantait la pièce La Centenaire. Linda Lemay qui donnera toute une série de spectacles au Québec au mois d'août et septembre. Elle retournera en France cet automne. Eh bien, vous savez, on sait que les centenaires sont de plus en plus nombreux, mais on sait aussi que dans une quinzaine d'années, là, les personnes de plus de 65 ans constitueront le quart de la population québécoise. La majorité des personnes aînées sont autonomes, quand même socialement actives, économiquement indépendantes et contributives. Près de 90% de ces personnes vivent à domicile. Il faudra toutefois adapter nos structures, en tout cas, et nos services à cette nouvelle réalité qui va entraîner une demande accrue en soins de longue durée et en soins et services à domicile. C'est pour ça qu'il existe des organismes comme la Coalition pour la dignité des aînés. Bonjour, Monsieur Pierre Lynch.
Ben bonjour, merci de nous recevoir.
Eh ben oui, c'est très important d'ailleurs, c'est un enjeu de société essentiel, enfin primordial. Là, il faut vraiment s'y pencher au plus rapide. Enfin, il faut y penser maintenant parce que comme on l'a dit, ben on sera nombreux hein, dans pas grand temps, on l'est déjà. Enfin, pour les gens qui sont... évidemment, c'est sûr qu'on est tous quand même âgés d'une certaine façon, là, comme la population vieillit, veut pas. Alors, parlez-nous de cette coalition pour la dignité des aînés. D'abord, il y a eu des états généraux hein, récemment.
Bon, les états généraux ont été tenus le 3 mai dernier. Là. Ça a rassemblé... vous savez, la coalition, c'est un regroupement de 6 organismes d'aînés qui a été créé en 2020. Donc, on a invité une bonne partie des intervenants au niveau de la société civile. Il y avait des spécialistes, il y avait des personnes, des différents organismes mm-hmm. comme la FADOC et ainsi de suite. Là. Alors, on a fait des états généraux en leur présentant, ni plus ni moins, 16 recommandations qu'on leur avait envoyées précédemment pour leur demander de les prioriser. Puis on a présenté ces choix-là durant les états généraux, puis on a eu des discussions sur chacun des éléments qui étaient regroupés là alentour de 4 thèmes. Là. Il y avait le thème des finances, mm-hmm. il y avait le thème de la santé, les droits, et puis il y avait le thème de la présence citoyenne.
C'est ça. Donc, parce que vous aviez auparavant lancé quand même, vous aviez fait un grand exercice de consultation. Alors, bon. Et l'autre affaire qui est intéressante, c'est que, bon, c'est ça, vous amenez des recommandations, vous amenez des solutions aussi.
Bien, on amène des solutions, on propose des solutions qui sont ressorties là, lors des états généraux. Entre autres, là, ce qui est important de tenir en ligne de compte, c'est que il faut avoir de l'action immédiatement. Ça fait trop longtemps qu'il y a des études, ça fait trop longtemps qu'on en parle, il faut passer à l'action. Il faut avoir une priorité absolue pour le maintien à domicile, tout en respectant là, le droit de chacun de vieillir où il le souhaite, donc dans son milieu de vie là, actuel. Il faut qu'avoir un financement public et universel, une sécurité financière et des revenus viables, parce que présentement, ce n'est pas tous les aînés qui ont la sécurité financière. Il y en a plusieurs qui tirent le cochon par la queue, là, si on peut se permettre l'expression.
Oui.
C'est assez difficile.
Tout à fait.
C'est ça. Il y a plusieurs autres solutions. Là. On en a proposé 7 principales là, qui sont ressorties lors des états généraux.
Ouais, c'est sûr que bon, les soins de santé sont au cœur du problème, bien entendu. Si on règle pas notre problème de au niveau de la santé, ben ça va pas s'améliorer au fur et à mesure que la population va vieillir, bien entendu. De là l'importance aussi de faire de la prévention en santé.
Oui, mais on dépense pas beaucoup d'argent hein, au Canada en prévention en santé. Je pense que ça dépasse pas les 2 ou les 3 % là. C'est certain que toute prévention, un dollar investi en prévention peut en sauver 10 mm-hmm. là, au niveau des interventions par la suite. Mais c'est pas le seul élément là. Il faut aussi là que les gens prennent en considération que les gens désirent poursuivre leur vie dans leur milieu de vie actuel.
C'est ça.
90% sont dans leur résidence. Ils veulent que les services viennent à eux. Si on est capable de mettre sur pied un système assez autonome, là, en tout cas le vrai virage ambulatoire qu'on entend parler depuis une vingtaine d'années,
ouais, ça fait bien longtemps,
qui n'a jamais pu lieu, c'est ça. C'est ça qui va devenir important, puis ça va permettre d'améliorer la santé, puis de même de réduire les coûts au niveau des personnes aînées.
Effectivement. Il y a en tout cas un paquet de sujets qui a été abordé. Ça concerne autant les droits de la personne, hein, parce que évidemment, on l'a vu pendant la pandémie. C'est sûr que bon, on veut être protégé aussi contre toute forme d'exploitation. Donc défense des droits, bien entendu, et s'assurer bon que les aînés vieillissent dans la dignité. Il y a toutes sortes de problématiques finalement avec le vieillissement.
Ben, la problématique la plus importante, c'est l'âgisme.
Mm-hmm, c'est donc, ça, d'avoir déjà des préjugés à l'égard des gens âgés, oui.
Oui, tout à fait. Fait que toute forme de préjugés ou toute forme de... Il y a beaucoup de harcèlement financier qui se fait, là, soit avec des courriels, avec toutes sortes de moyens, même avec les réseaux sociaux, puisque, vous savez, les aînés, durant la période de pandémie, ont utilisé beaucoup les réseaux sociaux pour briser l'isolement. Mais là, il y a plusieurs hackers là, qui se sont introduits là-dedans puis qui envoient toutes sortes là, d'offres alléchantes qui sont vraiment là de l'arnaque financière comme telle. Alors, il y a ça, il y a aussi la question là, qu'on entend parler souvent, ah, les aînés, là, c'est un fardeau financier, ils coûtent cher. À un certain moment donné, il y a des fausses prémices qui sont partagées un peu partout. Puis il faut cesser, là, tout comme les autres préjugés sociaux, là, faut cesser de les propager là, puis de les dissiper. Là.
C'est ça, parce qu'il reste qu'il y a quand même des gens d'un certain âge qui gagnent encore leur vie, qui contribuent à la société de toutes sortes de façons. Alors, c'est vraiment un préjugé là, d'exclure effectivement les aînés de notre réalité d'aujourd'hui.
Bien, vous savez, la majorité du bénévolat qui est fait dans notre société, c'est fait par les aînés. Alors, enlever le bénévolat qui est fait autant dans les organismes communautaires là, que dans les différents ministères, là, les hôpitaux et ainsi de suite, là, il va avoir un coût de 40 à 50 milliards là, assez facile à aller rajouter là, à l'économie. Là.
Effectivement, ça va faire un gros trou.
Tout à fait.
Oui, c'est ça. Maintenant, évidemment, la place des aînés dans la société, bon, c'est sûr qu'on parle d'isolement, donc la solitude hein, qui serait finalement aussi risquée pour la santé que bien d'autres choses, que ce soit le tabagisme et tout, enfin, n'importe quoi. Là. Donc, c'est l'isolement peut vraiment contribuer à faire dépérir quelqu'un prématurément.
Ben, on commence juste à voir les impacts là, de deux années d'isolement là, au cours de la pandémie de la COVID-19. On va avoir des impacts assez importants dans les prochaines années au niveau de la santé mentale, puis au niveau là, du comportement humain là, chez les aînés, surtout particulièrement là, chez nos plus vulnérables. Vous savez que les plus vulnérables de notre société, là, et ce sont les femmes âgées de plus de 75 ans qui vivent seules.
C'est ça. Alors, et puis, il y a toute la communauté aussi LGBTQ+, là. Enfin, bon, les aînés, les personnes aînées immigrantes et aussi ceux de la communauté LGBTQ, oui, exactement.
Tout à fait. Bon. Alors, ils sont tous sujets là, des mêmes prémices. Là, puis, au moment où je vous parle, là, il y a au moins... Quand on parle des aînés actuellement au niveau de leur situation financière, là, il y a au moins 33 % des aînés qui font moins de 20 000 $ par année comme
c'est
revenu.
Ça. Monsieur Lynch, on va devoir se quitter, mais en fait, tout est dans le mémoire 2022 de la Coalition pour la dignité des aînés. Alors, c'est à lire. Hein? On peut avoir accès à ça?
Oui, tout à fait, sur le site web. Là.
Parfait.
Vous allez directement sur le site web, tout est accessible.
Parfait. Ben, merci infiniment d'être venu nous en parler. Alors, c'est vraiment, il faut vraiment s'y intéresser beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, du beau travail que vous faites. Merci infiniment.
Ben, merci. Passez une excellente fin de journée.
Vous aussi. Eh bien, à tous, revenez-nous demain. J'espère que vous avez aimé nos sujets. Et écrivez-nous d'ailleurs en allant sur notre site Canal M, Vue et Voix. On se retrouve demain. Au revoir.